Tous et bienvenue dans La Locale, le coup de projecteur sur celles et ceux qui font le territoire. Aujourd'hui, vous êtes avec Karina et Sylvie est en chemin. Peut-être qu'elle nous retrouvera dans les temps. Si elle nous écoute, on la salue. Il est midi 16 et au sommaire de cette locale du mercredi 16 mars, on va d'abord parler d'ostéoporose avec le docteur Céline Lévesque-Michaud qui est rhumatologue au centre hospitalier de Valence. Et ensuite, on va parler d'un sujet qui nous rattrape tous et qui nous rattrape même jusqu'à Valence, la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et nous avons décidé de donner la parole à des citoyennes russes et ukrainiennes qui vivent ici pour nous parler de ce qu'elles traversent et de ce que traversent aussi leurs familles et leurs amis. Alors, la citoyenne ukrainienne viendra une autre fois. Elle est en train d'arriver sur Valence. Mais pour ce qui est des Russes, nous avons aujourd'hui avec nous la chance d'accueillir deux femmes russes dont le but n'est pas du tout de parler pour ou contre la Russie ou l'Ukraine, mais de donner vraiment leur parole pour qu'elles nous expliquent comment elles vivent cette situation. Et étant donné qu'elles risquent 15 ans d'emprisonnement, pour avoir dit le mot guerre par exemple, pour l'une des deux, on ne va pas donner toutes les informations sur son identité. On va rester avec les prénoms. Bonjour Tania.
Bonjour.
Et bonjour Paulina.
Bonjour.
Et puis, donc, comme d'habitude, des brèves et des infos locales. Alors, c'est le mars des femmes sur Radio BLV. Si vous ne le savez pas, c'est vraiment que vous n'écoutez pas assez la radio. On le répète nuit et jour. Et on a décidé, avec le centre hospitalier de Valence, de mettre en lumière les maladies qui touchent les femmes. Et c'est le cas de l'ostéoporose. On en parle tout de suite avec le docteur Lévesque-Michaud. Bonjour Céline.
Bonjour.
Alors, on est au téléphone pour parler d'ostéoporose parce que à Radio BLV, donc c'est le mars des femmes, on parle de sujets de femmes et l'ostéoporose correspond à un sujet qui touche les femmes. On va en parler. Peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs et aux auditrices de quoi il s'agit quand on dit ostéoporose ?
Alors, l'ostéoporose, c'est une maladie qui touche le squelette, l'ensemble du squelette, qui associe à la fois une diminution de la densité osseuse, mais aussi une altération de la microarchitecture de l'os. Et donc, ça peut entraîner une fragilité. Les conséquences, c'est donc les fractures, qui surviennent classiquement après un traumatisme de faible énergie, c'est-à-dire principalement une chute de sa hauteur en marchant.
Donc en fait, globalement, c'est une maladie qui rend les os beaucoup plus fragiles que normalement et donc on peut se casser beaucoup plus facilement.
C'est ça, exactement.
Et comment ça fonctionne dans le corps ?
Alors, on s'en rend pas compte, c'est bien le problème. Et c'est quand on a une fracture, le plus souvent, qu'on est devant le fait accompli et qu'on cherche cette ostéoporose pour la traiter. Et donc la problématique, c'est d'identifier les femmes les plus à risque pour justement intervenir avant que n'arrive cette fracture.
Et je disais en introduction, c'est une maladie qui concerne particulièrement les femmes. Donc vous disiez identifier les femmes les plus à risque. C'est quoi le profil type d'une personne qui pourrait être atteinte d'ostéoporose ?
Alors déjà, ça touche 2 à 3 fois plus les femmes que les hommes et c'est surtout après la ménopause qu'on voit les femmes ostéoporotiques. Après, il y a des facteurs de risque qui sont bien identifiés maintenant, qui peuvent du coup faire penser à rechercher l'ostéoporose chez ces personnes qui ont des facteurs de risque.
Et justement, c'est quoi ces facteurs de risque ? C'est dû à quoi cette maladie ?
Alors, il y a beaucoup de facteurs de risque. Je vais vous parler des principaux. Donc déjà, les principaux, c'est la ménopause précoce avant 40 ans. L'âge après, parce que plus on va vieillir et plus on va être à risque de présenter une fracture. Les antécédents personnels de fracture sont aussi très importants à prendre en compte. Donc on parle bien des fractures par fragilité, donc pas des fractures traumatiques.
Hein. Donc c'est pas quand on tombe vraiment d'une manière
pas
violente.
Quand il y a un gros choc. Voilà, c'est des fractures de faible énergie, on appelle, c'est-à-dire que c'est vraiment classiquement la chute de sa hauteur en marchant. Voilà, c'est pas si on tombe d'un escabeau ou si on est grimpé dans un arbre. On n'est pas dans le même contexte. Ensuite, il y a les antécédents familiaux de fractures de l'extrémité supérieure du fémur, qui sont aussi très importants, qui sont des facteurs de risque pour les descendants. Les chutes, bien sûr. Et donc, il y a les facteurs de risque de chute qu'il faut bien connaître, comme les troubles de la vue, la maladie de Parkinson, les vertiges, les séquelles d'accident vasculaire cérébral, par exemple. Il y a des traitements. Alors, on connaît bien la cortisone. Mais il y a aussi des médicaments qu'on utilise maintenant pour le cancer du sein ou de la prostate, qui sont des médicaments d'hormonothérapie.
Qui peuvent augmenter les risques.
C'est ça, exactement. Donc on travaille en collaboration avec les spécialistes oncologues, urologues, qui nous adressent les patients pour dépister une fragilité osseuse quand ils mettent en place ce genre de traitement. Les rhumatismes inflammatoires comme la polyarthrite, la spondylarthrite, les maladies inflammatoires de l'intestin comme la maladie de Crohn, le faible indice de masse corporelle, c'est-à-dire des gens qui ont un petit poids sur, rapporté à la taille, donc inférieur à 19 quand on fait le rapport, la sédentarité, les excès de tabac, d'alcool. Ensuite, il y a les problèmes endocriniens comme l'hyperthyroïdie, l'hyperparathyroïdie, les maladies chroniques comme le diabète, la BPCO, la carence en vitamine D. Voilà, c'est les principaux. Ensuite, il y en a d'autres qu'on recherche aussi, mais ceux-là sont les principaux.
Comment ça se fait qu'il y ait autant de facteurs de risque qui sont complètement différents? Parce qu'on a d'un côté des questions hormonales, d'un autre côté, on a les questions carrément de nos parents ou de qui se seraient cassé quelque chose. Après, la maladie de Crohn, enfin, toutes ces choses me paraissent tellement différentes.
Oui. Bah, la carence hormonale, c'est la carence en œstrogène qui fait qu'on a une perte osseuse qui s'accélère à la ménopause à cause de cette carence. C'est le mécanisme des traitements qu'on donne pour le cancer du sein, par exemple, qui donne des taux très bas d'hormones œstrogènes. Après, il est hérédité parce que le pic de masse osseuse, il est déterminé aux trois quarts par des facteurs héréditaires. Voilà, ça explique qu'il y ait beaucoup de facteurs de risque différents, effectivement.
Et donc, on sait qu'est-ce qui se passe dans le corps, à quoi c'est dû concrètement, l'ostéoporose?
L'ostéoporose, normalement, un os solide, il est dense et il a des travées qui sont bien reliées les unes aux autres. Donc, quand il y a un facteur qui fait que l'os se fragilise, ça peut être aussi bien une perte de la densité ou ça peut être aussi une altération des travées qui sont moins nombreuses, qui ne sont plus liées les unes aux autres. Donc, il y a des trous dans l'architecture de l'os qui fait qu'il est moins solide.
Et donc, si ça touche plus les femmes que les hommes, est-ce que c'est par rapport à cette question justement des œstrogènes?
Oui, c'est le principal, effectivement, la principale différence, c'est la carence hormonale à la ménopause. Après, chez l'homme, il y a des facteurs de risque qui sont plutôt médicamenteux, ou l'alcool, le tabac, la sédentarité, ça va plutôt être ces facteurs-là, et plutôt des hommes du coup plus âgés que les femmes qui peuvent être touchées assez jeunes, dès 50 ans à la ménopause en fait.
Et vous disiez ménopause précoce avant 40 ans, je ne savais pas que c'était possible.
Si, c'est possible. Si. Ben, ça peut être là aussi quelque chose de constitutionnel. Ça peut être lié à certains traitements. Il y a des femmes qui se font opérer des ovaires, une pathologie qui nécessite une ovariectomie bilatérale. Elles sont du coup ménopausées.
D'accord. Et donc, au niveau des symptômes, comment est-ce qu'on peut se dire on a potentiellement l'ostéoporose?
Ben, les symptômes, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la fracture. Donc, on cherche à dépister les femmes avant, parce que sinon, on peut pas ça ne se sent pas, en fait.
Il n'y a rien d'autre.
Alors après, on peut être alerté par une perte de taille, qui peut témoigner de fractures vertébrales, même si on n'a pas forcément de douleur.
Wow.
Et puis, la déformation du haut de la colonne vertébrale aussi. Ça peut être des signes d'alerte.
Et donc j'imagine qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Comment est-ce qu'on peut prévenir dans le cadre de cette maladie ?
Exactement, c'est ce qu'on cherche à faire parce que la prise en charge de l'ostéoporose, elle n'est pas bonne, hein, alors que l'ostéoporose figure dans le plan santé 2022. Pour vous donner un exemple, 15% des patientes reçoivent un traitement pour l'ostéoporose après une fracture seulement. Ça veut dire que 85% ne sont pas pris en charge après la première fracture. Alors qu'on sait aussi qu'il y a un gros risque dans l'année qui suit une première fracture d'en refaire une. Donc il y a aussi cet effort à faire pour les femmes fracturées, mais effectivement l'effort à faire aussi en préventif, c'est-à-dire bien dépister les femmes qui sont les plus à risque en recherchant les facteurs de risque dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, il y a une collaboration importante avec le médecin traitant qui connaît bien la patiente, qui va donc rechercher les facteurs de risque, surveiller sa taille, nous alerter si elle déforme sa colonne, et à ce moment-là, il va nous l'adresser pour une ostéodensitométrie, qui est l'examen qui va nous permettre d'objectiver la baisse de densité osseuse, et donc vraiment de confirmer qu'il y a une ostéoporose. Et en fonction des facteurs de risque associés, on va mettre en place un traitement. Donc ce traitement, on préférerait qu'il soit préventif, bien sûr, avant la survenue d'une fracture, mais on peut aussi traiter, bien sûr, s'il y a une fracture, pour empêcher la récidive de la fracture.
Il correspond à quoi, ce traitement ?
Alors, les traitements, il y a plusieurs familles de traitements de l'ostéoporose. Il y a les bifosphonates, il y a le raloxifène. Bon, je ne vais pas peut-être rentrer dans les détails de chaque thérapeutique, mais le teriparatide et le denosumab. On n'a pas non plus beaucoup de traitements pour l'ostéoporose. Donc on le choisit en fonction de l'âge de la patiente, des facteurs de risque, des autres antécédents qu'elle peut avoir. Il faut aussi que ce traitement il soit bien adapté à ses conditions de vie parce que c'est un traitement qui va durer plusieurs années. Donc il faut qu'il y ait une adhésion au traitement, il faut qu'elle soit bien observante, sinon évidemment ça ne marche pas. C'est le gage de l'efficacité du traitement. Hein. Et voilà, on maintient la séquence thérapeutique pendant 4 à 5 ans pour certains traitements, alors que la patiente ne va pas forcément avoir un bénéfice immédiat qu'elle va ressentir. Donc l'important, c'est de leur expliquer que ouais, c'est vraiment un traitement qu'il faut prendre sur plusieurs années pour avoir l'efficacité et empêcher la fracture. Ça, c'est les traitements spécifiques pour l'os. Après, on associe aussi d'autres mesures qui sont des règles hygiéno-diététiques, donc comme l'activité physique. Donc ça, on recommande en charge plutôt comme la marche. Ça permet de renforcer l'équilibre et puis d'améliorer la souplesse. Les apports en calcium au niveau alimentaire. Donc là, c'est à peu près 1 gramme, 1 gramme 2 par jour. Et puis la vitamine D. On a adapté à peu près 800 200 unités par jour avec une alimentation équilibrée. Bien sûr, l'arrêt du tabac et de l'alcool autant que possible. Et puis la prévention des chutes qui est aussi une prise en charge majeure. Donc on recommande le bilan ophtalmologique pour voir s'il y a des troubles de la vue à corriger. Correction des troubles de l'équilibre avec prise en charge par le kinésithérapeute. On essaie de faire attention aux médicaments qui peuvent entraîner une somnolence et des chutes. Voilà, essayer de bien avertir des risques dans la maison avec les tapis, les sols glissants, etc.
Est-ce que c'est une maladie qui se guérit ou juste qui se stabilise ?
On la stabilise, mais malheureusement, on sait très bien que c'est des traitements de longue haleine. On va faire des séquences thérapeutiques pendant donc plusieurs années. Ensuite, on va faire des pauses, on surveille et on est souvent amené à reprendre, effectivement.
Et ça concerne quel pourcentage de la population, l'ostéoporose ?
Alors, à peu près 4 millions de femmes en France actuellement pour l'ostéoporose. Il y a à peu près 400 000 fractures qui sont attribuables à l'ostéoporose. Et donc, en gros, pour 100 femmes ménopausées, il y a 40% qui feront une fracture par fragilité osseuse avant la fin de leur vie. Donc, c'est vraiment quelque chose, un problème de santé publique. Bon, il y a quand même pas mal de fractures ostéoporotiques avec toutes les conséquences que ça peut avoir, en particulier la fracture du col du fémur. On sait que c'est une fracture grave qui va entraîner des pertes d'autonomie et puis quand même dans 25% des décès.
Est-ce que vous avez un message pour terminer à adresser à nos auditeurs, auditrices sur ce sujet ?
Mais moi, je conseille vivement pour les femmes qui pensent avoir des facteurs de risque de bien en parler avec leur médecin généraliste qui les adressera pour l'ostéodensitométrie, qui est donc un examen remboursé dans les conditions des facteurs de risque dont je vous ai parlé. Voilà, pour essayer de se faire dépister le plus tôt possible, le but étant d'éviter la première fracture.
Et vous parliez de vitamine D, voilà, et de calcium. Est-ce que par prévention, est-ce que toutes les femmes devraient prendre un régime plus riche en vitamine D ou en calcium ou faire plus attention à ces choses-là?
Oui, je pense que même tout au long de la vie, on doit faire attention aux apports en calcium et en vitamine D hein, dès l'enfance, l'adolescence, puisque c'est là qu'on va constituer le pic de masse osseuse. Et puis après, tout au long de la vie, puisqu'on sait qu'on va perdre à partir de 40 ans environ régulièrement notre densité, notre masse osseuse. Du coup, il faut y faire attention tout au long de la vie, je pense, oui.
Et l'exercice physique, comme vous disiez.
Et l'exercice physique, voilà.
C'est bien noté. Merci beaucoup, Céline, d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça.
Je vous en prie, merci à vous. Au revoir.
Au revoir. Et c'était donc Céline du centre hospitalier de Valence, le docteur Lévesque Michaud. Sachez que depuis 2007, le centre hospitalier de Valence a créé une filière de l'ostéoporose justement pour recenser les femmes ménopausées qui ont une fracture par fragilité osseuse dans le but de leur assurer une prise en charge adaptée. Quelques informations à vous partager, on va faire court. Pensez d'abord à réserver vos places pour Les Déferlantes, le rendez-vous annuel avec la chanson francophone dans toutes ses variations qui démarre demain au Train Théâtre à Portes-les-Valence. Du 17 au 25 mars, retrouvez des artistes suisses, béninois, réunionnais, belges, maorais, québécois, etc. La francophonie dans toutes ses déclinaisons. On en parle demain avec Benoît Vuillon, le directeur du Train Théâtre, scène conventionnelle d'intérêt national à récréation. Et sinon, cause toujours, sachez que demain, à 19h30 jusqu'à 21h30, il y aura le printemps des poètes avec pour thème national de 2022 l'éphémère. Il y aura donc des lecteurs, Christian Lyotard et Marie-Pierre Donval, et deux poètes invités avec notamment les dernières parutions, Monique Domergue, Fleur étrange pour Billie Holiday, Liliane Laurent Rockaway pour Patti Smith. Elles prêteront également leur voix à d'autres poètes participant à l'édition de l'atelier du Hanneton de Charpé. Sylvie nous a rejoint. Bonjour Sylvie.
Bonjour Carina. Bonjour Carina et bonjour à toutes et tous.
Alors nous sommes donc maintenant avec Tania et Paulina. Comment est-ce que ça va? Paulina, comment ça va?
Bonjour encore une fois. Ça va, on dit ça en français, ça va, mais c'est vrai que c'est l'état un peu difficile. Niveau quotidien, et j'ai réfléchi beaucoup à ce qui se passe. Je regarde tout le temps les actualités et ça me stresse beaucoup.
Et donc toi, tu es russe. ça fait quelques années que tu es en France. Et là, tu as beaucoup d'amis et de famille en Russie.
Oui, donc j'habite en France maintenant depuis quelques années, mais je reste le citoyen russe. Ma famille donc est en Russie. La plupart de mes amis, ils habitent toujours en Russie. Donc je suis beaucoup toujours liée avec ce qui se passe là-bas, avec mes proches et j'ai régulièrement je regarde chaque jour ça change en fait pour eux et ça m'inquiète.
Et Tania, toi, tu n'es pas le même profil. Ça fait longtemps que tu es en France. Comment est-ce que tu vis ce qui se passe en ce moment?
J'arrive pas à débrancher. Je suis très agitée. J'ai un sentiment de qu'il se passe quelque chose d'irréel et quelque chose qui est impensable, indicible, comme si j'étais basculée dans les époques que j'ai pu étudier par le passé, les époques des des grandes tragédies de masse.
Oui, parce que c'est qui tu es, Tania, en quelques mots?
Depuis 2014, je suis une simple professionnelle de la relation d'aide. J'accompagne les personnes pour apprendre la relaxation. Mais avant, j'ai eu toute une vie de critique, organisatrice d'expositions d'art contemporain russe et du théâtre contemporain. Et j'étais aussi, j'ai fait de la recherche et de l'enseignement à l'université qui portait sur le théâtre allemand des années 60, par exemple, sur les pièces qui parlaient des procès contre les gardiens d'Auschwitz. Et puis, j'ai beaucoup travaillé sur le théâtre dissident russe qui s'appelle Théâtre Point Doc, qui a été créé en 2000.
Et qu'est-ce qui t'avait fait quitter la Russie à l'époque ?
J'ai quitté la Russie en 2000, juste après que Poutine est devenu Premier ministre. J'avais déjà beaucoup de projets d'échange culturels entre la France et la Russie. Je voulais reprendre mes études universitaires au niveau doctorat en France. J'ai aussi épousé un Français. Mais je pense que tout ce que j'observais comme évolution dans la politique société russe me mettait vraiment en grande difficulté, anxiété, et j'avais très envie d'aider les Russes en me mettant un peu à distance, en sécurité, et en trouvant des outils pour soutenir l'art dissident russe.
Et est-ce que tu as des proches aujourd'hui encore en Russie ?
J'ai pas vraiment très peu de famille, en tout cas elle est dispersée, certains ont émigré ou sont en train d'émigrer. Et j'ai des proches qui viennent de mon milieu théâtral et d'art contemporain, dont j'observe les mouvements ces derniers jours, les derniers mouvements sur Facebook qui sont en train de débrancher complètement et qui sont en train de migrer sur Telegram. Et c'est ça ma source d'information.
Et justement, vos proches, commencer par Paulina, tes amis en Russie, comment est-ce qu'ils vivent la situation en ce moment ? Ça ressemble à quoi leur journée ?
Oui, c'est compliqué vu que maintenant, la plupart des médias, presque tous les médias qui étaient indépendants, ils ont bloqué et les réseaux sociaux bloqués, même Telegram depuis lundi, Instagram, pardon. Et il y a moins et moins possibilité de regarder les vraies informations par rapport à cette guerre. Et même les VPN, ils viennent d'être bloqués. Beaucoup de VPN étaient bloqués.
Les VPN, c'était une stratégie pour faire croire qu'on n'était pas en Russie.
Pour changer ton adresse.
Pour avoir accès à toutes les infos.
Voilà. Et mes amis, oui, ils se sentent vraiment bloqués là-bas. Il y en a beaucoup qui sont fuis déjà dans le pays qui reste encore pour l'instant ouvert pour prendre l'avion. Par exemple, Géorgie, Turquie. Mais par rapport à les sanctions qui viennent de se mettre en place, en fait, le rouble, il ne vaut rien maintenant et... Ils ont problème d'argent, en fait, pour même prendre le billet d'avion parce que ça coûte très cher maintenant pour eux. Et puis, ils ne savent même pas combien de temps ils peuvent rester ailleurs. S'ils doivent revenir, ça leur fait peur. Donc, ils ont un peu dans le stress. C'est quoi leur plan? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont pouvoir trouver un travail ailleurs pour rester ailleurs? Parce que je connais personne qui veut en fait rester en ce moment en Russie. Il n'y a personne qui voit leur futur là-bas en fait.
Tout le monde veut partir là. Enfin, autour de toi, les amis, c'est...
Oui, il y en a plusieurs amis, couples qui sont déjà réussi à partir, mais ils ont dû vendre tout ce qu'ils ont. Par exemple, il y a une fille qui a... Il est peintre et il a essayé de vite fait vendre tout ce qu'il a créé, mais ça n'a pas trop marché parce que tout le monde est un peu dans les mêmes situations. Donc en fait, ils sont partis avec très peu d'argent en Géorgie, mais ils ne savent même pas s'ils vont pouvoir se soutenir là-bas. Et voilà, il y a des autres amis qui attendent toujours leur passeport international pour partir. Donc, ils ont peur qu'il y ait un moment, ça sera complètement coupé et ils ne vont pas pouvoir partir. Mais pour eux, ils doivent attendre encore à peu près un mois pour partir. Et c'est vrai que chaque jour, ils ont stressé et ils ne savent pas en fait ce qui va se passer.
Oui, ça peut se fermer du jour au lendemain, voire même d'une heure à l'autre, quoi.
Oui, par exemple, toutes ces pays qui ont fermé leur air de la Russie, ça se passait très très vite. Et il reste deux trois pays juste maintenant où on peut en fait voler de la Russie. Et pour eux, c'est vraiment critique. Voilà, tout le monde a peur.
On entend beaucoup parler de rideau de fer à nouveau. Enfin voilà, une espèce de triste retour de l'histoire. Tania, ça fait écho, j'imagine, chez toi de façon très particulière.
Tout à fait. Je me souviens très bien que l'Union soviétique, enfin dans les années 70, on a commencé à pouvoir aller à l'étranger, enfin dans un cadre très organisé, par exemple envoyé par l'Union des peintres. Et accompagné par des gens de certaines professions. Et on avait des visas de sortie. Donc déjà, le visa d'entrée dans les pays européens, c'était très difficile. Il fallait faire la queue, etc. Mais avant, il fallait obtenir, je crois, avant le visa de sortie de ton propre pays, ce qui voulait dire qu'il fallait faire l'enquête sur tout ce que tu as dit, qu'est-ce que tu as fait, avec qui tu as couché. Mmh. Et il pouvait y avoir un refus, en tout cas. Il nous tenait bien comme ça.
Et du coup, ce que tu dis, Paulina, c'est cette crainte-là aussi. Enfin, aujourd'hui, on est dans cette expectative, dans ce risque.
Oui, même maintenant, mon ami, il me dit que pour, par exemple, aller en Géorgie, tu dois remplir un questionnaire et tu dois signer que tu es contre la guerre et que tu ne supportes pas ce qui se passe en Géorgie. Mais par contre, maintenant en Russie, ils ont mis la loi qui est si tu dis ça, en fait, tu peux avoir 15 ans de prison. Ça passe par le même si tu postes quelque chose sur les réseaux ou tu dis quelque chose ou tu protestes dans les rues si tu es contre la guerre ou si tu dis en gros pas la version officielle de notre gouvernement, tu peux avoir 15 ans de prison. Donc mes amis, ils ont peur de signer ce papier. Parce qu'ils ne savent pas si jamais il revient dans un mois, dans trois mois. Parce qu'en fait, c'est toujours limité.
Oui, les autorisations.
Oui, les autorisations des autres pays, combien tu peux rester. Et donc, en fait, ces gens-là, ils risquent aussi d'avoir la pénalité en revenant. Donc, ils ont même peur de signer ça. Sans ça, en fait, ils ne peuvent pas partir non plus. Donc...
Mais il n'y a pas de solution aujourd'hui.
C'était dit par rapport à Géorgie, mais je ne sais pas par rapport à Turquie, par exemple. Il y a aussi Arménie, je crois, qui reste ouvert. Et là-bas, je ne sais pas s'il y a cette règle, mais en Géorgie, on m'a dit que oui.
Tania, tu voulais intervenir? Je t'ai voulu noter.
J'approuve. je sais qu'il y a un certain nombre de personnes que je connais du milieu artistique qui est parti à Yerevan. Mmh. En Arménie, et qui sont en train de faire des choses depuis là-bas. Mais apparemment, il n'y a pas de questionnaire. Et il y a quelqu'un qui est parti en minibus en Finlande, avec des rencontres désagréables avec les membres de services secrets, qui les ont passés un petit peu. Voilà, c'est des interrogatoires, des intimidations, mais ils ont pu quand même sortir. Et il y a aussi la Turquie, mais je ne connais pas les règles, mais ça reste aussi une destination. Et c'est vrai que ça sonne en moi de manière très douloureuse, parce que je pense à ces bateaux des intellectuels qui, à l'époque de Lénine, sont partis à Istanbul pour atterrir on ne sait pas où, entre 1917 et 1922. Et pour moi, c'est le synonyme de famine, perdition, prostitution. Et voilà.
Oui, il y a aussi pas mal des médias qui sont bloqués, mais ils postent toujours. Et moi, j'ai l'accès. En tout cas, ils postent la prévention pour des Russes qui sont en train de partir, qui veulent partir, pour se préparer en fait pour la frontière russe, parce que aussi à la frontière, ils demandent de montrer ton téléphone, tous tes messages. Ils peuvent te demander plein de questions. Qu'est-ce que tu penses par rapport à les politiques? Pour qui tu as voté? Est-ce que tu sapeurs la guerre ou pas? Et en gros, même si tu as supprimé Telegram, par exemple, parce que maintenant tout le monde parle en Telegram, et surtout par rapport à les choses qui sont interdites maintenant. Beaucoup de gens, ils ont supprimé Telegram avant de partir, avant de passer les frontières. Et là, ils demandent même à réinstaller Telegram pour voir qu'est-ce que tu as eu comme conversation avant. Donc, il y a pas mal de trucs fous qui se passent. Voilà.
Tania ?
Un exemple, deux des plus importants critiques de théâtre qui ont pris des positions ouvertes contre le régime depuis des années sont partis ces dernières semaines, enfin, dans le courant de la dernière semaine, après que sur leur porte de l'appartement, il y avait une lettre Z énorme qui était dessinée. C'est une lettre, c'est un symbole donc de. En fait, c'est une prise de position par rapport à l'Occident, une des dernières lettres d'alphabet, et je ne sais pas encore quoi, mais en tout cas, c'est un signe, comme pour les Juifs à une certaine époque, c'est-à-dire que c'est des portes qui sont marquées, parce que c'est des gens qui ont déjà reçu beaucoup de menaces à distance. Et là, ça rapproche comme de Anna Politkovskaya à l'époque, la journaliste. Et donc là, ils se sont plus posé des questions. Mais vraiment, là, ça n'a pas traîné. Ils sont partis tout de suite.
Elles sont marquées par qui, les portes? Par le gouvernement?
Par toutes ces milliers de personnes qui travaillent pour les services secrets et les forces de l'ordre. Et aussi, je pense, quelque chose qui est de l'ordre de paramilitaire, peut-être, c'est difficile à savoir, mais tout le monde est traqué. Tout le monde est traqué. C'est extrêmement contrôlé, mais c'est l'est depuis 2014.
Et pour les gens qui restent sur place, donc qui n'ont pas encore fui ou qui ne veulent pas fuir, Paulina, toi, tes amis qui sont encore sur place, ça ressemble à quoi leur quotidien?
Comme j'ai dit, ils sont tous un peu dans les chocs et ils sont en train de chercher déjà peut-être un travail ailleurs. Oui, au quotidien, il y a des trucs, par exemple, dans les magasins, il y a bien sûr les prix qui sont montés, des fois vraiment dramatiquement.
Oui.
Et il y a des étagères vides déjà dans les magasins par rapport à certains produits. Et du coup, il y a aussi dans quelques magasins les limites des produits que tu peux prendre par personne. Donc, par exemple, 1-2 paquets par personne.
De rationnement.
Ouais. Et voilà, il y a beaucoup de marques, beaucoup de producteurs qui sont partis de notre marché. Donc, tous les jours, cette liste, ils rajoutent plusieurs. Et voilà, ça change, parce qu'on devient bien limité en utilisation de tout ce qu'on a utilisé pendant des années. Et maintenant, ça part de notre marché. Et par exemple, moi, en tant que designer, je peux dire, si j'étais maintenant en Russie, je ne pourrais pas faire mon travail parce que, par exemple, Adobe, ils ont parti de la Russie. Oui. Figma, ils ont parti de la Russie.
Et beaucoup d'entreprises ont quitté la Russie.
Oui, et donc ça nous reste pas beaucoup de choses. Même McDonald's, il est parti. Hein. Il y avait les derniers jours, il y avait les grandes lignes pour acheter la dernière burger.
Ah oui, les gens ont fait la queue pour avoir leur dernier burger de McDo. Oui.
Maintenant, même si on va en sort de Les Bons Coins russes, on n'a pas de Les Bons Coins, mais on a les sites russes pour revendre des trucs. Il y avait des gens qui ont vendu les burgers des McDonald's pour des prix
genre 1 000
euros pour un burger. Il y avait des annonces comme ça.
Qui l'aurait cru?
Ouais.
Tania?
La Russie, c'est vraiment un pays de contraste. C'est-à-dire que la cruauté que vous pouvez rencontrer là-bas au quotidien, ça me rappelle aussi quand il y avait une explosion il y a quelques années à l'aéroport de Modjedovo, les gens qui ont essayé de fuir l'aéroport pour rentrer à Moscou, ils ont tout de suite été accueillis par des personnes, des chauffeurs de taxi clandestins ou officiels qui leur ont proposé des prix faramineux comme cet hamburger pour rejoindre le centre-ville et fuir l'aéroport qui était attaqué. Il y a aussi beaucoup de générosité. Mais ce que je veux dire, c'est que pour l'esprit occidental, c'est, je pense, extrêmement choquant et inimaginable à quel point c'est un pays de contraste et où le cynisme extrême peut être ultra présent.
Je ne suis pas sûre que dans les mêmes conditions, il n'y ait pas le même genre de réaction en France, ici, malgré tout. Je pense que c'est l'humain aussi qui a évolué, pas forcément. Voilà, il est capable du pire, du meilleur, mais aussi du pire. Est-ce qu'avant le 24 février, on sentait déjà ce poids de l'État, malgré tout? Est-ce qu'on a senti progressivement, parce que voilà, Tania, toi, tu as connu il y a quelques années, on va dire, mais avant ce 24 février, est-ce qu'on a senti le poids de la surveillance qui est monté progressivement?
Oui, moi, je pense, je les note depuis 2014, à partir du moment des Crimées. Oui. En fait, la guerre, je pense qu'elle a commencé, là. Et depuis, même un peu avant, parce que déjà, Poutine, il était trop long là-bas et il y avait pas mal de manifestations. Mais avant, c'était beaucoup plus libre et... à partir de 2014, je pense, ça a commencé à vraiment être plus dangereux de faire des manifestations, d'être contre les régimes. Et graduellement, pendant toutes ces années, ça a devenu plus et plus fermé, plus et plus dur de dire ce que tu penses. Et oui, mais je n'ai jamais pensé en fait que ça va devenir vraiment la guerre comme on voit maintenant.
Et aussi rapidement peut-être.
Oui, oui.
Et sur la liberté d'expression, on a entendu toutes les deux que vous êtes entourées de personnes qui sont aussi contre cette guerre comme vous. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui auraient envie d'aller dans les rues, d'exprimer, de manifester, de bloquer, de faire des choses. Mais vu le risque, c'est quasiment inenvisageable. Que pensent les gens que vous connaissez sur place? Est-ce qu'ils veulent quand même prendre ces risques-là ou comment ils voient les choses?
Oui, au tout début de la guerre, il y avait mes amis aussi qui ont essayé de manifester, mais je peux dire des côtés de mon amie qui est juste une petite fille, et elle va manifester avec son petit manteau et elle m'a dit, je vois je ne sais pas combien de militaires et des policiers, tous armés, tous géants, tous prêts à te battre.
Elle est juste en face avec son petit manteau.
Et on voit beaucoup de cadres vraiment fous quand les policiers ils prennent des gens par les pieds, par les mains, ils le portent juste dans leur voiture et... Des fois, les gens disparaissent. Des fois, les gens, ils n'ont pas des avocats. Il y a plein de violences, en fait. Donc, bien sûr que tout le monde a peur. Et maintenant, aussi récemment, il y avait pas mal de lois qui protègent les policiers, surtout. Donc, en gros, policiers, ils peuvent dire presque n'importe quoi en disant, en fait, il m'a poussé. Donc, moi, je lui ai pris parce qu'il a...
C'est de la légitime défense, il m'a poussé. Ouais.
Voilà. Mais on voit beaucoup de cadres quand les policiers, ils prennent juste, les personnes à vélo qui se promènent à côté. Et ils ne font même pas les manifestations, mais ils peuvent être aussi arrêtés. Voilà, il y avait pas mal des jeunes aussi, des ados qui étaient arrêtés aussi. Bon, il y a beaucoup de n'importe quoi qui se passe. Donc, oui, tout le monde a peur. Et vu que la loi qui est sortie encore une fois, qui en fait, tu peux avoir plusieurs années juste parce que.
Jusqu'à 15 ans de prison, ouais, parce que c'est énorme.
Enfin, ouais. Et on voit en fait pas mal de vraies histoires. Quand les personnes ont posté une vidéo sur YouTube, il a eu vraiment la prison pour 3 ans, 5 ans. Mmh. Et pareil avec les manifestations. Donc, quand on nous dit n'aie pas peur, ouais. Mais c'est presque pas possible de ne pas avoir peur. Donc.
Il reste peu de temps, mais peut-être est-ce que vous connaissez à l'inverse des proches à vous pro-guerre et comment est-ce que vous pensez que ça les a menés à penser comme ça, à être pour la guerre ?
Pour vous répondre, je voudrais vous donner un exemple éclairant, parce que vous avez vu, il y a des statistiques qui disent qu'il y a 60 et quelques pourcents de population russe qui est pour la guerre. Aujourd'hui. Donc, cette population n'est pas toujours instruite, d'accord ? Alors, en 2014, la dernière fois quand j'étais à Moscou, j'ai fréquenté quelqu'un qui est philosophe et qui est mon voisin. Et il disait qu'il détestait Obama, qu'il détestait, en 2014. Il regardait la télévision russe, qu'il détestait François Hollande parce qu'il a passé une loi qui permettait aux pédophiles d'adopter les enfants pour s'en servir. Je vous laisse interpréter de quelle loi il s'agit. Et puis aussi qu'il allait au restaurant, le jour de mon arrivée à Moscou, il allait au restaurant fêter quelque chose avec sa femme. Et quand je lui demandais « Fêter quoi, Vladimir ?», il a dit « Notre fils va faire son service militaire ». Et je n'arrivais pas à comprendre. Je lui ai dit « Mais pourquoi vous allez au restaurant pour ça ?» Il a dit « Parce qu'il va défendre sa patrie et pour nous, c'est la fête. » Donc là, il s'agit de quelqu'un qui est très instruit et qui, normalement, doit avoir un esprit critique, mais qui était complètement empoisonné, enfin, embobiné par la propagande. Et j'avais, au bout de ma langue, quand je n'ai pas encore senti son agressivité, hein, parce que l'agressivité vient très vite chez les voisins, dans le métro, tout ça. Mais quand je n'avais pas encore pigé ça, j'allais lui dire, mais Vladimir, mais vous êtes complètement embobiné par la propagande russe. Et j'ai pas eu le temps parce qu'elle m'a dit, mais Tania, vous êtes complètement embobiné par la propagande pro-occidentale. Et après, j'ai plus rien dit pendant 2 semaines quand je le croisais.
Ah oui, ça explique beaucoup de choses.
Il faut imaginer ce que vous voyez à la télévision. Le cerveau était complètement retourné.
Paulina ?
Oui, je peux dire la même chose. Oui, j'ai aussi malheureusement quelqu'un de ma famille qui est aussi la victime des propagandes fortes en Russie. Et vu qu'en télévision, on peut voir qui est la version pro-Poutine, on va dire. Ils n'ont pas d'autres moyens de recevoir l'information, mais maintenant, quand je leur raconte autre version de ce qui se passe, ils ne peuvent pas même croire parce que dans leur tête, ça fait des années qu'ils croient la même chose. Et là, par exemple, ils croient que ce n'est pas la Russie qui fait la guerre, c'est... Par exemple, les bombes ukrainiennes qui tombent sur les villes ukrainiennes, donc ce n'est pas la Russie qui leur bombe. Et, en gros, la Russie elle fait dénazification de l'Ukraine, qui est vraiment fou. Mais,
c'est un mouvement de libération.
Voilà. Et, donc, en fait, la compréhension est complètement tournée par rapport à en fait que nous, oui, on est... on apporte la liberté et en fait, ce serait mieux pour l'Ukraine si on
fait
ça.
Bien sûr que...
Merci beaucoup à toutes les deux. J'espère que ça aura permis aux auditeurs et aux auditrices de mieux comprendre ce qui se passe en Russie, en tout cas auprès des citoyens, parce que la guerre, elle touche aussi les citoyens qui sont les premières victimes de tout ça, des deux côtés, finalement.
Oui, et puis bien dire que le gouvernement et les Russes, ce sont deux choses différentes. Oui,
absolument.
Et le président, enfin, je pense que c'est vraiment important avec toutes les bêtises qu'on peut entendre aussi.
Merci beaucoup.
Merci.
C'est la fin de cette émission, donc restez sur Radio BLV et tout de suite vous allez pouvoir écouter Anthropopop avec Pauline qui va parler du genre. À 17h, le magazine Environnement, la radio dans le pédalo sur les livres. À 18h, la rediffusion de la locale. 19h, les bonnes ondes de la SMAC. Et 20h30, retrouvez Thierry pour l'oreille électrique.